Максим Лещинин. Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 21h à Gaza, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, le président Zelensky maintient son refus de toute trêve sans garantie. L'Amérique ne va pas tolérer ça très longtemps, met en garde ce soir Donald Trump à l'intention du président ukrainien. Au Proche-Orient, la trêve à Gaza en péril. Les Nations Unies, Berlin et Londres appellent le gouvernement israélien à lever immédiatement les entraves à l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, de son côté, promet le pire au Hamas si tous les otages ne sont pas libérés. Et il refuse par ailleurs toute idée d'enquête sur les attaques du 7 octobre. Enfin, en France, au procès, le Squarneck, l'ex-chirurgien, s'est dit prêt aujourd'hui à reconnaître certains viols en affirmant en avoir fini avec le mensonge. On joindra dans le journal au tribunal de Vannes notre envoyé spécial Laura Martel. Et pour commencer, direction le Proche-Orient à Gaza, où la trêve ne tient donc plus qu'à un fil. Après des désaccords avec le Hamas sur les modalités de la poursuite du cessez-le-feu, Israël a ordonné hier le blocage de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, déclenchant les critiques des Nations Unies, des capitales arabes, mais également de Berlin et de Londres, qui appellent le gouvernement israélien à lever immédiatement toutes les entraves à l'aide dans l'enclave palestinienne. Inflexible, le Premier ministre Netanyahou menace de son côté le Hamas de conséquences inimaginables si tous les otages ne sont pas libérés. Le Premier ministre israélien qui par ailleurs refuse toute enquête sur les attaques du 7 octobre, débat houleux aujourd'hui à la Knesset où des familles de victimes qui réclament cette enquête ont été expulsées de l'enceinte du Parlement. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
Dans la galerie du public de la Knesset, les membres du Conseil d'Octobre, un mouvement constitué de familles d'otages et de victimes du 7 octobre, ont ostensiblement tourné le dos au Premier ministre pendant son discours, avant d'être brutalement expulsé par la garde du Parlement israélien. Benjamin Netanyahou, à la tribune, a livré pour sa part un discours particulièrement ferme, au cours duquel il a alterné promesses de victoire, défense de son bilan et engagement conditionnel sur une future commission d'enquête. Le Premier ministre a accusé un État profond d'avoir lancé ce qu'il a qualifié d'enquête criminelle sans fondement à son encontre et à celle de son entourage proche.
Le peuple n'est pas stupide. La coopération entre des fonctionnaires de l'État profond et les médias n'a pas réussi aux États-Unis et il ne réussira pas ici non plus. Je ne m'incline pas devant des enquêtes fabriquées et des chasses aux sorcières politiques. Je résiste depuis des années, car la vérité et la justice l'emporteront.
Netanyahou a menacé le Hamas de conséquences que le mouvement islamiste palestinien ne peut pas imaginer s'il ne relâche pas les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Une séance parlementaire des plus chahutées qu'ait connue la Knesset. Plusieurs députés ont été eux aussi expulsés après avoir interpellé le Premier ministre pendant son discours. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a conclu « Ce qui s'est passé ici est une honte sans borne ». Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Sur le front ukrainien maintenant, au lendemain du sommet de Londres et du soutien réaffirmé des Européens à Kiev, le président Zelensky maintient son refus de toute trêve avec la Russie sans de sérieuses garanties de sécurité. Au grand dam de Donald Trump, qui ce soir hausse le ton en affirmant que l'Amérique ne pourra plus tolérer ça très longtemps. Menace proférée à l'encontre du président ukrainien, 3 jours après la déjà vive altercation à la Maison-Blanche durant laquelle le président américain avait estimé que son homologue ukrainien n'était pas prêt pour la paix. Une critique reprise aujourd'hui par le Kremlin qui estime qu'il faut forcer Zelensky à faire la paix. Le président Zelensky qui continue de travailler avec ses alliés européens en espérant, a-t-il dit ce soir, mettre fin à la guerre le plus tôt possible. Alors qu'en Europe, le débat s'est ouvert parallèlement sur la proposition française d'étendre son bouclier nucléaire à l'ensemble du continent. Quelle forme pourrait prendre cette dissuasion partagée? Les explications de Camille Grand, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN.
Ce qui
semble se dessiner, c'est davantage, par exemple, le fait de faire des exercices en commun, d'avoir des et ça, il y a déjà eu quelques signaux dans ce sens, notamment avec l'armée de l'air italienne, ou les forces aériennes stratégiques françaises ouvrent leurs exercices à de la participation de partenaires européens pour apprendre à travailler ensemble, ce qui peut être évidemment très utile dans un contexte de crise. Donc on est dans quelque chose qui est plus léger que la dissuasion américaine. Je crois que ce qui est important d'avoir en tête, c'est ce que ça ne sera pas, c'est-à-dire que ça n'est pas une dissuasion de l'Union européenne où il y aurait un bouton virtuel à Bruxelles. Ça reste la dissuasion française, mise en œuvre par la France et sur décision du président de la République, mais avec davantage de concertation avec nos partenaires européens. Ça ne sera pas non plus la dissuasion à l'américaine, consistant à placer des bombes américaines sous des avions pilotés par des Allemands, des Belges ou des Néerlandais. La France n'est pas les États-Unis de ce point de vue-là.
L'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, Camille Grand, au micro d'Anne Cantner, est toujours sur ce dossier ukrainien à l'Assemblée nationale à Paris aujourd'hui. Le Premier ministre Bayrou a dénoncé la brutalité de Donald Trump et loué l'honneur du président Zelensky. En Iran, le Parlement, contrôlé par les conservateurs, a voté une motion de censure contre le ministre de l'économie, alors qu'un des principaux alliés du président Pezeshkian, Mohammad Javad Zarif, qui occupait le poste de vice-président pour les affaires stratégiques, a été contraint à la démission. À Téhéran, les précisions de notre correspondant Siavosh Ghazi.
En moins de quelques heures, le gouvernement du président modéré iranien Massoud Pezeshkian a reçu deux coups durs. Son ministre de l'économie, Abdel Nasser Hemmati, a été censuré par le Parlement, contrôlé par les conservateurs qui lui reprochaient sa politique monétaire. En effet, le rial iranien a largement chuté ces six derniers mois, perdant plus de 60% de sa valeur. Ce n'est pas tout, Mohammad Javad Zarif, vice-président iranien chargé des affaires stratégiques, mais surtout ancien ministre des Affaires étrangères qui avait négocié l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances, a annoncé sa démission forcée. Il a en effet expliqué que le chef de l'autorité judiciaire lui avait demandé de quitter son poste. Selon la loi iranienne, les personnes dont les enfants ou la femme possèdent une nationalité étrangère n'ont pas le droit d'occuper une position gouvernementale. Or, les deux enfants de Mohammad Javad Zarif, nés aux États-Unis, ont la double nationalité américaine et iranienne. Cela intervient alors que les experts prévoient une aggravation de la crise économique ces prochains mois, en particulier avec la politique de pression maximale décidée par le président Trump contre l'Iran à cause de son programme nucléaire. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Il est 20h08 à Paris, en France. Deuxième semaine du procès Le Skouarnec, l'ex-chirurgien jugé pour des viols et des agressions sexuelles sur près de 300 jeunes patients, la plupart des mineurs. Aujourd'hui, la cour s'est penchée sur son parcours de vie. À Vannes, où se tient le procès, on retrouve Laura Martel. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Joël Le Skouarnec, qui semble donc tenir à se livrer sur les faits qui lui sont reprochés.
À l'en croire, Joël Le Skouarnec a eu une enfance heureuse, bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi il n'a quasiment aucun souvenir jusqu'au collège, puis une vie de famille lambda, jusqu'à un premier passage à l'acte vers 35 ans. Je le situe avec ma nièce, une gamine turbulente qui venait se réfugier dans mes bras, c'est là que j'ai commencé à avoir des gestes malencontreux. C'est progressivement, dit-il, que la perversion l'envahit. J'étais dans ma bulle de pédophile, je ne pensais qu'à ça, je ne vivais que pour ça. Si personne n'a rien détecté, c'est selon lui qu'il y avait deux personnes, le père et le pédophile, le mari et le pédophile, le chirurgien et le pédophile, il y avait une scission entre les deux. À plusieurs reprises, la présidente tente de savoir s'il a décelé dans son parcours des éléments qui pourraient expliquer cette perversion, mais l'accusé ne voit rien, aucun traumatisme passé, aucun événement qui ait déclenché ses pulsions. Quant aux actes incestueux de son propre père sur son fils, il n'y voit qu'une coïncidence. Je l'ignorais jusqu'à récemment, il ne peut donc y avoir de lien, pointe-t-il. Si c'est aujourd'hui une nécessité pour lui de comprendre son comportement, malgré le travail avec les psys, il affirme n'avoir toujours aucune réponse, mais avoir désormais conscience de la dévastation qu'il a causée. L'accusé assure même être prêt à reconnaître des faits contestés. Jusque-là, j'en ai fini du mensonge, dit-il.
Laura Martel du service France Justice de RFI en direct de Vannes. Il est presque 20h10 à Paris, c'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute et restez sur la chaîne mondiale dans un instant. Vous retrouvez notre magazine européen Accent d'Europe. Bonne soirée.